Vous êtes sur RTL.
Dominique Tenza,
RTL Matin.
Et à 8h, le journal, c'est avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
Bonjour Dominique, bonjour à tous. Un hommage religieux et un hommage républicain tout à l'heure à Saint-Étienne-du-Rouvray, 4 ans après l'assassinat du père Jacques Hamel. Les cicatrices ne sont toujours pas totalement refermées. À Nantes, l'incendie de la cathédrale était bien un incendie criminel. Le bénévole rwandais, relâché cette semaine, est finalement passé aux aveux. Et puis si vous en avez assez des coups de fil pour vous proposer la fameuse isolation à 1 euro, on parlera d'une mesure qui devrait vous redonner le sourire.
RTL Matin.
C'est un assassinat horrible qui a marqué toute la communauté nationale. Ce sont les mots de Gérald Darmanin au sujet de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray.
Ouais, le ministre de l'Intérieur va assister tout à l'heure à cette journée d'hommage au père Jacques Hamel près de Rouen. Ce prêtre avait été égorgé dans son église en pleine messe par deux djihadistes. C'était il y a 4 ans, Julien Caillard. Une date qui laisse un souvenir effroyable aux habitants de Saint-Étienne-du-Rouvray.
Oui, ce 26 juillet 2016, ici, personne ne l'a oublié, le drame reste un fardeau porté collectivement.
Quand il y a une douleur, on se serre les coudes, on est très solidaire.
Il y a plus de sensibilité autour des gens, plus de fraternité, plus d'attention, je dirais. Une amitié, on sent quelque chose.
4 ans après, cette ville ouvrière cosmopolite n'a pas cédé à la tentation du repli, bien au contraire, selon le député Hubert Vulfranc, maire de la commune au moment du drame.
C'est une ville debout, certes marquée au fer rouge, mais justement une ville qui n'a pas sombré l'ombre d'un instant à un quelconque dérapage.
Nous sommes plus forts après qu'avant.
Et désormais, beaucoup ici ont le regard tourné vers Rome. Tous attendent la béatification du père Hamel. Roseline, la sœur du prêtre.
La douleur est tellement encore présente. Je souhaite que cette béatification lui soit accordée par le pape François le plus rapidement possible.
Le pape François, dont la décision n'est pas attendue avant au moins un an.
Julien Caillard à Saint-Étienne-du-Rouvray pour RTL. On suivra avec vous cette journée de commémoration en mémoire du père Jacques Hamel. La messe sera célébrée à partir de 10h30.
Fin du suspense à Nantes. L'incendie de la cathédrale était bien d'origine criminelle.
Ah oui, vous vous souvenez peut-être du principal suspect, un bénévole rwandais qui avait eu la responsabilité de fermer les portes la veille de l'incendie. Il avait été relâché. Les policiers l'ont interpellé à nouveau hier soir, Mathieu Lopineau, et le suspect est passé aux aveux.
Oui, Emmanuel a reconnu avoir allumé 3 feux dans la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes. Lors de sa première garde à vue, il contestait les faits. Dans le récit de la soirée qu'il avait livrée, la semaine dernière, des contradictions étaient apparues, mais le procureur avait expliqué qu'elles avaient pu être levées. Puis, hier matin, Emmanuel a été interpellé à nouveau chez lui. La PJ, cette fois-ci, disposait d'analyses de la police scientifique et technique. Peu avant 2h tout à l'heure, cet homme de 39 ans qui était chargé de fermer la cathédrale la veille de l'incendie est passé aux aveux dans le bureau du juge d'instruction qui le mettait en examen pour dégradation, détérioration par incendie. Il a reconnu donc avoir allumé ces 3 feux dans la cathédrale, le premier sur le grand orgue, le deuxième au petit orgue et puis le dernier dans un panneau électrique. D'après son avocat Maître Chabert, ce Rwandais réfugié regrette, il est rongé par les remords et par l'ampleur qu'ont pu prendre les événements. À ce stade, on ignore donc ses motivations, il a été placé en détention provisoire et il risque 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende.
Les précisions de Mathieu Lopineau à Nantes pour RTL.
Un discours de fermeté hier à Nice pour tenter de rassurer les habitants.
La ville a été confrontée récemment à plusieurs épisodes de violence, sans doute liés au trafic de drogue. Le Premier ministre Jean Castex s'est rendu sur place. Il a notamment promis l'embauche de 60 policiers nationaux supplémentaires, des policiers qui pourront, dès la rentrée, distribuer des amendes de 100 euros aux clients des trafics de drogue sans avoir à passer devant un juge. Une mesure qui existe déjà dans plusieurs villes de France, comme à Reims ou à Rennes par exemple. Samia Belbachir, vous avez suivi ce déplacement du Premier ministre à Nice. De la fermeté dans les paroles, mais les habitants, eux, attendent encore des actes pour être convaincus.
Même s'ils s'accordent tous pour dire qu'il faut plus de présence policière, les habitants ne se font pas d'illusions.
C'est bien d'avoir embauché plus de policiers, mais 60, c'est pas suffisant. Je pense qu'au contraire, on devrait plus aider les jeunes de quartier en leur donnant de quoi s'amuser, plutôt que de les laisser sans rien et qu'ils se retrouvent à aller faire des bêtises.
Ça ne s'arrêtera jamais, il y aura tout le temps des trafics.
Ben, la solution, moi, ça serait de faire une bonne perquisition dans le quartier et d'enlever toute cette... Parce qu'on les voit, il y a des jeunes qui ne travaillent pas, ils ont des Mercedes, ils ont des BMW. Est-ce que c'est normal qu'ils habitent des HLM, ces gens-là ?
Des doutes entendus par Jean Castex lors de sa visite du quartier des Moulins samedi matin.
On n'en peut plus, on n'en peut plus. Ils ont rénové l'ascenseur, ils ont cassé. L'immeuble. Ces jeunes-là, hein, vous leur faites réparer.
Ça n'est jamais fait, monsieur. Il faut que ça soit fait et qu'il répare dans la cité.
Et dans l'idée d'une sécurité de proximité, une extension des compétences de la police municipale a également été annoncée.
Un reportage de Samia Belbachir à Nice pour RTL.
Quand le Parlement raccroche au nez des démarcheurs téléphoniques, on vous explique tout ça juste après la pause. Restez avec nous.
RTL Matin avec Dominique Tenza.
RTL Matin,
Dominique Tenza.
Et la suite du journal avec Alexandre de Saint-Aignan. Les appels toutes les 10 minutes pour vous proposer d'isoler les combles pour 1 euro, c'est terminé, normalement.
Oui, normalement, on l'espère. En tout cas, c'est le principe de cette nouvelle loi contre le démarchage téléphonique abusif. Elle vient d'être promulguée. Le texte prévoit des amendes jusqu'à 375 000 euros en cas de harcèlement. Ça calme un petit peu. Ouais. Avant de menacer la prochaine personne que vous aurez au bout du fil, sachez quand même qu'il faut d'abord vous inscrire sur la liste Bloctel avant pour que ça fonctionne. Alors, est-ce que ça sera suffisant ? L'avenir nous le dira. Olivier Guéraud est juriste à l'Association des consommateurs CLCV. Il estime que les parlementaires aurait dû aller encore plus loin.
Il y a vraiment des choses très positives dans ce décret. Il interdit purement et simplement le démarchage en matière de rénovation énergétique et il renforce les obligations des professionnels de croiser leurs fichiers avec Bloctel, ils augmentent les amendes, etc. Mais malheureusement, ça ne va pas assez loin. Le démarchage téléphonique est un fléau global. Vous avez des gens qui vous disent « moi, je décroche même plus mon téléphone tellement j'en peux plus ». Et la véritable solution, c'est l'interdiction du démarchage téléphonique, point final. Il faut renverser la logique qui existe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez pas qu'on vous démarche, il faut vous inscrire sur une liste anti-prospection téléphonique. Il faut faire le contraire. Par principe, on n'a pas le droit de démarcher les gens, sauf ceux qui vous ont dit qu'ils étaient d'accord. C'est la seule solution pour régler le problème.
Voilà des propos recueillis par Agathe Landais pour RTL.
Le compte à rebours est lancé, il reste exactement 4 ans jour pour jour avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris.
Oui, les préparatifs continuent, ils n'ont pas trop pris de retard pour l'instant avec l'épidémie de coronavirus, même si les organisateurs prévoient déjà que certains budgets devraient être réduits. Isabelle Langer, qu'est-ce qu'il reste à faire pour Paris 2024 ?
Eh bien, trouver encore des investisseurs. Je vous rappelle que 98% des fonds du comité d'organisation viennent du privé. À ce jour, le budget est loin d'être bouclé, mais le patron du COJO, Tony Estanguet, est confiant.
On a un tiers de notre budget qui est déjà sécurisé avec les droits télévisés qui sont déjà signés. Un tiers qui vient de la billetterie. Et aujourd'hui, on est plutôt sur une prévision assez prudente de notre modèle de billetterie. Et un tiers financé par des sponsors. Donc aujourd'hui, on est quasiment à 40% d'ici la fin d'année qui sont déjà signés. Et il nous reste 4 ans pour aller chercher les autres.
En ce qui concerne les équipements, 95% des sites existent déjà. Il reste seulement à construire le centre aquatique, le village olympique et paralympique et le village des médias. Les travaux de la piscine comme celui du village des athlètes commenceront en 2021 et la livraison est prévue début 2024. Enfin, la billetterie, elle, ouvrira en 2023.
Les explications signées Isabelle Langer pour RTL. En football, Kylian Mbappé sur le terrain face à l'Atalanta Bergame. Le PSG n'écarte pas totalement cette hypothèse. Malgré la blessure de son attaquant lors de la finale de la Coupe de France, les premiers examens ont révélé une entorse de la cheville droite. Une seule chose est sûre, il ne jouera pas la finale de la Coupe de la Ligue. Mais d'ici le quart de finale de la Ligue des Champions, le 12 août prochain à Lisbonne, les espoirs semblent permis selon les experts médicaux. Kylian Mbappé doit passer des nouveaux tests dans les prochains jours.
Merci Alexandre.